Le père Mathieu Rouget est actuellement curé de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes. Il est professeur de...
À la fois théologie sacramentaire et théologie politique.
De théologie sacramentaire et de théologie politique au Collège des Bernardins.
Faculté Notre-Dame, oui.
Il est spécialiste de Guillaume de Saint-Thierry. Il a consacré sa thèse de doctorat à ce saint homme, qu'il a été publié dans la collection Théologie historique chez Beauchesne.
Exactement.
Ça te cite. Et il a été aumônier des parlementaires, voilà, pendant 9 années. Et nous l'écoutons maintenant avec joie et reconnaissance nous parler de...
Le sujet que m'a donné Étienne Michelin, c'est les urgences de la mission dans une France sécularisée aux racines profondément catholiques.
Ah non, ça c'est pas vrai. Moi j'avais donné un autre titre et c'est vous qui m'avez envoyé celui-là.
Ah bon ?
Oui, père. Moi j'avais dit « Le padré nous parlera de quoi qu'il veut causer
ouais. ». Alors merci encore de cette invitation et après la bonne matinée d'aujourd'hui, de pouvoir continuer un petit peu. Je voudrais tout de suite prévenir une objection. Certes, je suis prêtre du diocèse de Paris, mais ne disqualifiez pas a priori mes propos comme étant parisien. Laissez-moi au moins le bénéfice du doute pendant quelques instants. Et je le dis pour rire, mais aussi sérieusement, il se trouve que je suis effectivement curé d'une paroisse qui était une très grosse paroisse, extrêmement vivante. Je le dis d'autant plus facilement que je n'y suis pour pas grand-chose. C'est le travail de mes prédécesseurs et la sociologie de ce quartier qui font cela. Et donc, je vous rassure, j'ai conscience que toute la France n'est pas comme Saint-Ferdinand des Ternes. Toutes les paroisses de France n'ont pas 100 servants d'hôtel extrêmement bien formés et motivés, 30 couples accompagnateurs de préparation au mariage, 20 couples accompagnateurs de préparation au baptême, et j'en passe. J'y suis pour rien, mais j'ai conscience que ce n'est pas le paysage unique de la France catholique. Mais en même temps, cela existe aussi dans quelques paroisses de l'Ouest parisien, intra et extramuros, et puis dans d'autres paroisses en France, et ça dit aussi quelque chose de ce qui se vit en France. Alors, pour introduire ma réflexion sur quelques urgences de la mission que je ne déduis pas de la situation que je connais immédiatement, mais plutôt de ce qu'on peut essayer de déceler comme don fait l'Église en France aujourd'hui, puisque c'est toujours, comme le disait très très bien le père Michelin tout à l'heure dans son homélie, c'est toujours la promesse et le don qui suscite l'encouragement, voire le commandement. Avant d'introduire mon propos, je reviendrai un instant sur ce dialogue par lequel j'ai commencé ce matin entre Ratzinger et Lustiger. La confrontation des pronostics minoritaires ou multitudinistes. Je vous ai dit quand j'ai évoqué cela, quel avenir pour l'Église en France et en Occident, un passage ultra-minoritaire ou une renaissance foisonnante. J'ai dit que malgré un pronostic assez différent, Lustiger avait sans doute été un des grands électeurs de Benoît XVI au conclave. J'en parle d'autant plus qu'il ne m'a fait aucune confidence sur le sujet. En fait, l'un et l'autre, habités par un regard de foi profondément biblique, j'y reviendrai, étaient capables de sévérité sur notre époque. Et le cardinal Lustiger, peut-être encore plus que le cardinal Ratzinger. Étant moins intellectuel, plus affectif, il pouvait de temps en temps faire dans sa prédication des fresques apocalyptiques assez vigoureuses sur la situation spirituelle de notre temps. Mais pourquoi est-ce que, je pense, le cardinal Lustiger a souhaité l'élection du cardinal Ratzinger ? À mon avis, pour une raison assez précise, c'est qu'il pensait que Ratzinger avait compris, et qu'il n'était pas si nombreux que cela à avoir compris, ce que Jean-Paul II, et lui Lustiger à sa manière et avec son histoire, avait voulu réaliser vis-à-vis du monde juif. Et vous savez que le cardinal Ratzinger a souvent dit qu'une des grandes constantes de son ministère de théologien était la lutte contre le marcionisme et d'arriver à manifester à quel point il est salutaire pour l'Évangile de se recevoir sur le sol fécond de la première alliance. Et évidemment, pour le cardinal Lustiger, en raison de son histoire, ce point était très important. Mais ce qui était important, ce n'était pas de judaïser, comme une sorte de marotte, évidemment, mais c'était d'entrer dans une compréhension de l'histoire. Dans le choix de Dieu, le cardinal Lustiger explique que ce qui est le danger, quand on ne donne pas sa place au judaïsme de manière juste, c'est de transformer le christianisme en message. C'est ce qu'il appelle la tentation païenne du christianisme. Transformer le christianisme en message détaché d'une histoire. Et si je dis cela à ce stade de notre réflexion de cet après-midi, c'est parce que précisément, l'un et l'autre avaient en commun une volonté de lecture spirituelle de notre histoire ecclésiale à la lumière de l'expérience biblique. De ce point de vue-là, un peu dans l'esprit de Romano Guardini, dont d'ailleurs le pape François cite deux fois le beau livre « La fin des temps modernes » dans son encyclique « Laudato si », à la manière de... Oui, je parle bien de pape François, « Laudato si », à la manière de Romano Guardini, ils entraient par l'expérience biblique dans une véritable « katholische Weltanschauung », un regard catholique sur le monde, le mot catholique pouvant être pris dans toutes ses acceptions. Voilà le premier point de mon introduction. Le deuxième, en mettant immédiatement en œuvre cette lecture spirituelle et biblique de l'histoire de l'Église, est évidemment de reconnaître très clairement que nous vivons aujourd'hui une traversée du désert. Un désert qui est, en certains lieux, particulièrement aride. Je connais comme vous des régions de France qui sont de plus en plus désertes sur le plan sacerdotal, mais aussi spirituel. Notre pays est traversé par un paganisme matérialiste dur, et en un sens, ce phénomène qui n'est pas archaïque mais postmoderne du djihadisme musulman fleurissant dans des terres autrefois chrétiennes dit aussi quelque chose de la crise terrible de l'espérance que connaît notre époque. J'ai des amis jeunes évêques qui sont dans des diocèses exsangues, y compris sur le plan financier. Je pense à un ami qui hésite à accepter un séminariste parce qu'il ne sait pas comment il pourra financer sa formation dans un diocèse qui, glorieusement, en a 5 ou 6, ce qui est déjà beaucoup, malheureusement. Donc tout ça, je ne le nie pas. Et il nous faut le regarder en face. Quand je pense au désert, on peut penser bien sûr au désert où le peuple est resté pendant 40 ans, comment n'y pas penser en carême, mais aussi à cette espèce de nouveau désert qu'a été l'exil à Babylone, où le peuple libéré est à nouveau dans la servitude, et une servitude qui est pour une part le fruit de son péché. Et ce que je voudrais dire à ce point, c'est qu'il me semble aujourd'hui que pour l'Église, au moins en France, et sans doute en Occident en général, ce désert que nous traversons, il faut le regarder pas uniquement pour nous en désoler, mais pour comprendre pourquoi nous y sommes. Et il me semble qu'il y a actuellement une sorte d'omerta sur les racines de notre crise spirituelle qui n'est plus acceptable. Peut-être avez-vous entre les mains un très joli petit livre de Don Samuel, qui est le père abbé ou prieur, je ne sais pas, de la fondation du monastère trappiste de Seyfond en République tchèque, Novi Dour, un très beau petit livre qui s'appelle « De tout cœur, sur l'avenir catholique de notre temps », publié aux éditions Ad Solem, et où le père Samuel fait beaucoup de remarques extrêmement suggestives, j'en évoquerai quelques autres, et en même temps, il appelle de ses voeux à ce diagnostic sur la crise spirituelle que nous avons connue. Beaucoup trop souvent, les catholiques, les clercs, interprètent la crise spirituelle que nous traversons comme une simple manifestation sociologique devant laquelle nous serions totalement passifs. Et il me semble qu'il faut peut-être nous demander quelle part l'Église a dans cette crise spirituelle, quelle responsabilité l'Église et les chrétiens ont dans cette crise spirituelle. les réalités sont complexes. Donc il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur qui que ce soit ou de penser qu'en deux ou trois idées, on aurait percé un secret simpliste. Mais on ne peut pas sortir de... On ne peut pas, à mon avis, éviter de se poser profondément cette question. L'Église n'est pas simplement la victime passive d'une évolution sociologique irrémédiable. Peut-être qu'elle a sa part dans la crise de notre temps, pas uniquement de l'Église elle-même. Et il faut être capable de faire cette relecture historique et spirituelle aujourd'hui pour que nous sachions comment agir. Avec l'Institut Jean-Marie Lustiger, dont je fais partie du conseil scientifique, nous prévoyons un colloque pour les 10 ans de la mort du cardinal. Il est mort le 5 août 2007, pardon. Donc ce sera août ou septembre ou octobre 2017. Et justement, nous souhaitons faire un colloque qui soit historique avec des historiens de l'université et profiter de ce colloque pour essayer de regarder ce que Denis Pelletier, par exemple, dans un livre discutable mais suggestif, La crise catholique, donc appelle la crise catholique. Je pense que ce colloque s'appellera Jean-Marie Lustiger et la crise catholique, 1954, date de son ordination sacerdotale, 2007, date de sa mort. Donc nous traversons bel et bien un désert qu'il faut que nous apprenions, plus que nous l'avons fait jusqu'à maintenant, à regarder en face. Mais, comme le dit l'Écriture, dans le désert, le Seigneur fait jaillir des sources. Et je voudrais que nous essayons ensemble de regarder quelques-unes de ces sources qui, précisément comme données par le Seigneur, sont aussi des appels à les accueillir, boire à ces sources et partager ce que nous avons bu avec nos contemporains. Pour faire la jointure entre ces deuxième et troisième points de mon introduction, la traversée du désert et des sources dans le désert, je voudrais évoquer un livre qui se vend beaucoup aujourd'hui, qui n'est pas un livre de très grande littérature, mais qui n'est pas inintéressant, qui est le petit livre d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle « La nuit de feu ». Quoi qu'il en soit d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est peut-être un auteur un peu facile, il raconte une expérience spirituelle, qui est d'ailleurs une expérience spirituelle qui reste un petit peu rapide, qui n'est pas profondément, finalement, en tout cas, reliée au Christ. Mais dans son récit, bien enlevé, il y a un quiproquo, à un moment donné, entre deux personnages qui vont faire une marche dans le désert, autour de la personnalité de Foucault. Quelqu'un dit qu'on va aller voir l'ermitage de Charles Foucault, du père de Foucault, et le narrateur confond le père de Foucault avec Michel Foucault. Mais en fait, je trouve que ce rapprochement est très suggestif. Sans doute Michel Foucault est-il un des pères de la pensée déconstructiviste, dans laquelle pas mal d'auteurs de l'Église sont rentrés avec presque ferveur. Il y a des pages très suggestives chez Denis Pelletier sur, en quelque sorte, l'alliance de Foucault, Certeau, Morel et quelques autres. Et puis, ce renouveau spirituel, alors les questions de chronologie limitent évidemment le dialogue des personnalités, que signifie le père Charles Foucault. Parmi ces sources dans le désert, je voudrais évoquer avec vous le service des pauvres, donc qui sont des sources et autant d'urgence pour la mission, dans l'idée que c'est en repérant les charismes qui sont donnés que l'on peut laisser le Seigneur lui-même mener la barque de son Église, le service des pauvres, l'approfondissement d'une culture de la vie et l'engagement dans la vie spirituelle. J'espère que ce n'est pas simplement un goût esthétique pour les plans qui me fait proposer ces trois réflexions. Mais vous voyez, une église pour les pauvres, une culture de la vie, une célébration de la vérité, vous voyez se dessiner trois visages. Le visage du pape François, le visage de Saint Jean-Paul II et le visage de Benoît XVI. Peut-être que la fécondité de l'Église en notre temps est lié au fait de prendre ces trois enseignements, ces trois visages ensemble. le service des pauvres, la culture de la vérité, la culture de la vie et la contemplation, la célébration de la vérité, notamment la vérité spirituelle. Vous voyez aussi se dessiner les chapitres d'une anthropologie tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Et de fait, il me semble que c'est une manière féconde de comprendre la mission de l'Église catholique qui s'adresse à tout homme et à tout l'homme. Anthropologie tripartite, beaucoup d'entre vous connaissent ou connaîtront, j'espère, le très beau texte du père de Lubac, longtemps resté inédit et publié dans les volumes Théologie dans l'Histoire. Et le cardinal Barbarin, il y a quelques années, avait structuré 3 années de son diocèse autour de ces 3 dimensions du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il fait à sa manière une belle appropriation contemporaine et pastorale de l'anthropologie tripartite dans sa lettre pastorale « L'Église est une servante ». Alors d'abord, première source, premier champ de priorité pour la mission, première urgence, une église pour les pauvres. Il est saisissant de voir à quel point aujourd'hui, dans le paysage catholique français, malgré la fragilité numérique, il reste des engagements novateurs et audacieux des catholiques au service des plus pauvres. Et à travers cet engagement, il ne s'agit pas pour les catholiques de trouver un argument marketing ou de satisfaire leur mauvaise conscience, mais d'entrer dans ce qui atteste la vérité de la foi, qui est la charité, Galates 5-6. C'est aussi la manière de manifester la véritable réalité de l'humanité. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, nous savons bien, avec Gaudium et Spes 22, et ce qui, dans l'Évangile, est la manifestation de l'homme par excellence dans le Verbe incarné, c'est le « Voici l'homme » de Pilate, présentant Jésus dans sa fragilité humaine. Manifester et servir le mystère de la fragilité humaine, ainsi transfiguré, c'est entrer dans la profondeur du mystère de l'homme. On pourrait évoquer bien des exemples contemporains où quelque chose de l'œuvre de Dieu s'accomplit et est appelé dans le service des pauvres. Je voudrais prendre 2 exemples. Tout ce qui touche autour du handicap mental et ce qui s'est manifesté autour de la naissance de l'Arche et de Foi et Lumière. Et qui a, en réalité, dans la France des années 70, 80, 90, à certains égards, totalement transformé le regard de la société et pas seulement de l'Église sur le handicap et les personnes handicapées. Il faut entendre Marie-Hélène Mathieu, cofondatrice de Foi et Lumière avec Jean Vanier, raconter le premier pèlerinage de Foi et Lumière à Lourdes en 1971. Un pèlerinage important pendant la Semaine Sainte de 10 000 personnes, dont 3 000 personnes handicapées mentales. Et Marie-Hélène Mathieu, avec la force et la douceur qui la caractérise, raconte que il n'avait trouvé aucun évêque pour accepter de présider ce pèlerinage, que les sanctuaires de Lourdes avaient, avec beaucoup de difficultés, accepté timidement qu'il puisse avoir lieu, et que tous les marchands de babioles plus ou moins sacrés avaient fermé leur rideau de fer de peur d'avoir des magasins dévastés par les hordes d'handicapés qui allaient entrer dans Lourdes, et le préfet des Hautes-Pyrénées avait réquisitionné les parachutistes de Tarbes pour qu'ils protègent la ville de l'invasion des fous. Oui, et tout ce que je dis là est absolument véridique. Et puis, le pèlerinage a commencé. Les personnes handicapées au Rescu Referens ont chanté des Alléluia, même en carême, ce qui a commencé, qui a continué de faire froncer les sourcils au vieux chapelain de Lourdes. Mais progressivement, le pèlerinage a eu une beauté évangélique, une douceur, une joie qui a saisi tout le monde. Les parachutistes ont regagné leur cantonnement. Les marchands de souvenirs ont rouvert leur magasin et l'évêque de Lourdes est sorti de son chalet épiscopal pour finir de présider les cérémonies. Et vous voyez que à partir de Foi et Lumière et de tout ce qui s'en est suivi, la place des personnes handicapées mentales dans l'Église a été totalement transformée. Pensez aux JMJ en particulier de Paris, de Rome, où les personnes handicapées étaient vraiment à la première place, beaucoup de jeunes qui étaient là, et pour les servir, et encore aujourd'hui, aux Frates et ailleurs. Et à travers cela, c'est aussi l'implication des chrétiens qui a multiplié les ateliers protégés, les lieux de sous-traitance, et une prise en charge de toute la collectivité tout entière. Ce que je trouve très intéressant, c'est que cette mutation sociale suscitée par les chrétiens se soit passée au creux des années 70, dans une période extrêmement difficile pour l'Église. Et donc ça manifeste bien que quelque chose est vraiment possible à travers le soin des plus pauvres. Quand j'étais aumônier parlementaire, nous avons organisé des pèlerinages à Lourdes pour les élus, qui continuent d'ailleurs, à l'initiative de plusieurs élus, non seulement les élus nationaux, mais aussi les élus locaux. Et Marie-Hélène Mathieu est venue raconter l'histoire que je viens de vous raconter. Et puis elle a achevé avec beaucoup de douceur, en disant le problème, c'est qu'aujourd'hui, des handicapés mentaux, il y en a de moins en moins, parce qu'on les tue avant leur naissance. Et tous les élus qui étaient là, en particulier les parlementaires, qui avaient beaucoup ri en écoutant le récit que j'ai résumé de manière rapide, tout d'un coup, se sont rembrunis, comme s'il y avait une parole qu'ils ne pouvaient plus entendre, et qui, malgré tout, grâce à la douceur, au témoignage de Marie-Hélène Mathieu, a pu progresser dans certains cœurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les groupes de Foi et Lumière sont vieillissants, et qu'il y a évidemment, en dehors des milieux chrétiens, de moins en moins de personnes handicapées mentales. Mais il y a de nouveaux phénomènes qui sont nés, y compris avec des nouvelles réalités. Et là, je voudrais prendre un autre exemple, c'est le mouvement Simon de Cyrène, qui est né parce que, c'est pour le coup une autre attitude médicale et scientifique, c'est les progrès de la rééducation, de la réanimation, pardon. Et donc, on s'est trouvé dans les années, à partir de la fin des années 80, avec beaucoup de personnes qui avaient subi des accidents de voiture graves, qu'on avait réanimés, peut-être un peu au-delà du raisonnable dans certains cas, et qui se retrouvaient dans une vie de traumatisés crâniens, étant véritablement handicapés, en ayant eu une vie de validité auparavant, donc une autre configuration humaine et sanitaire. Et à partir d'un cas particulier, d'une certaine Cécile de Cherizet, que je connaissais d'ailleurs très bien avant son accident de voiture, eh bien, sa mère, les amis de sa mère, et puis peu à peu, un de ses frères, plein de charisme et d'énergie, ont compris qu'il y avait là un nouveau problème social en France, et sont en train, sur un modèle inspiré de l'Arche, mais transposé, de créer un nouveau mode d'habitat semi-autonome pour permettre à ces personnes traumatisées crâniennes d'être respectées et accompagnées. Et Simon de Cyrène, à l'époque où j'étais auprès des milieux politiques, j'ai pu un peu aider Laurent Cherizet sur ses contacts institutionnels, est en train d'ouvrir de nouvelles pistes pour cette nouvelle forme de pauvreté. Aujourd'hui, il y a là un lieu évangélisateur majeur, me semble-t-il, en France, qui n'est pas une manière de réduction sociale de l'appartenance chrétienne, comme nous avons pu la connaître à certaines époques, mais qui est au contraire, à certaines conditions que je vais essayer de dire, une manifestation de la profondeur proprement chrétienne du rapport au monde. Je pense qu'il y a au moins deux conditions pour que ces engagements de charité soient authentiquement des engagements de charité chrétienne. D'abord, le fait que la relation prime sur la prestation. Beaucoup de services que les congrégations religieuses en particulier accomplissaient en faveur des pauvres ont été, et c'est justice, repris par les pouvoirs publics. Mais nous voyons bien que nous sommes souvent dans des configurations où, même avec du personnel de qualité, les pouvoirs publics ne peuvent donner que des prestations. soigner des organes plutôt qu'accompagner des personnes. Et il y a une mission essentielle pour les chrétiens d'être toujours ceux qui mettent la relation avant la prestation. Et le fait que les chrétiens, avec la modestie de leur lien, de leur capacité, de manière comme sacramentelle, c'est-à-dire symboliquement limitée, mais profondément féconde, puissent avoir des lieux significatifs où la relation l'emporte sur la prestation, est quelque chose de très important. Je pense par exemple au mouvement Aux Captifs et la Libération, qui va à la rencontre des personnes de la rue, qui sont si nombreux dans toutes nos cités, monde de la prostitution, et puis toute la gamme des personnes sans domicile, tout simplement pour vivre la gratuité de la relation. Eh bien, ça peut sembler aller un peu à l'encontre des prestations qualifiées, y compris parfois d'ONG à étiquette chrétienne, mais il y a là quelque chose d'essentiel et de profondément évangélisateur. Deuxième condition que j'évoquerai, c'est la capacité à faire se rejoindre le souci éthique et la véritable compassion. Nous voyons bien comment un langage compassionnel peut, à tout moment, dans la tyrannie affective des médias en particulier, être le prétexte à toutes les transgressions éthiques. Et il y a au contraire à faire valoir que la compassion véritable passe par le respect inconditionnel et raisonné de la dignité profonde de la personne humaine. Un sujet particulier que je voudrais souligner dans ce chapitre, c'est notre manière d'accompagner la mort. C'est un sujet qui est brûlant en France aujourd'hui, puisque nous sommes à nouveau dans un débat autour de l'euthanasie et de l'accompagnement juste de la mort. En même temps, c'est aussi un domaine où les chrétiens ont pu accomplir de grandes choses. Puisque je crois qu'en dépit de tout ce que nous connaissons de difficile aujourd'hui, en tout cas en France, on euthanasie moins aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Ou parfois même de bonnes vieilles religieuses dans certains dispensaires catholiques pensaient faire un acte de charité en administrant une piqûre expéditive. Et vous vous rappelez du cri d'alarme du père Verspiren il y a plus de 25 ans maintenant. La prise en compte de l'importance et de la possibilité des soins palliatifs, là aussi une convergence extraordinaire entre la science et la foi, avec les progrès du traitement de la douleur, qui ne sont pas parfaits, nous le savons bien, mais qui sont réels, eh bien, a fait qu'il y a quelque chose de nouveau. Et les catholiques ont été aux avant-postes de l'engagement pour les soins palliatifs. Je me permets d'évoquer à nouveau la mémoire du cardinal Lustiger. Quand une œuvre de veuve, plus ou moins consacrée, était en train de fermer il y a une vingtaine d'années, et qu'on était venu lui dire que, n'est-ce pas, il fallait fermer ce bâtiment et le vendre, comme si souvent on lui en faisait la proposition, avec toujours la même réaction rugissante, eh bien, il a dit « mais non, il y a aujourd'hui un enjeu nouveau, c'est l'accompagnement de la mort, ces veuves accompagnaient de manière artisanale des personnes en fin de vie, il faut en faire un lieu novateur du point de vue des soins palliatifs, ce qui a été le cas avec la Maison Jeanne Garnier, qui est reconnue unanimement en France comme un lieu vraiment pilote et remarquable, où le cardinal lui-même, étonnante et belle délicatesse de la Providence, a fini ses jours. J'évoquais ce matin rapidement quelques romanciers qui pointent vers la culture chrétienne, et je citerai volontiers, en vous encourageant à les regarder, les pages de Michel Houellebecq dans La carte et le territoire, qui évoque cette question de la fin de vie. Nous en parlions pendant le déjeuner. Alors Houellebecq n'est pas un auteur à mettre entre toutes les mains. Malheureusement, il s'y côtoie chez lui le meilleur et le pire. Mais, à condition de ne pas être bégueule et d'avoir quelques idées bien en place, on peut quand même le lire, et notamment La carte et le territoire, où il y a les pages les plus saisissantes que je n'ai jamais lues sur l'euthanasie. Et c'est extraordinaire, le narrateur sait que son père a dit qu'il voulait en finir, et puis le narrateur va dans la clinique, entre guillemets, euthanasique, où où son père a été tué. Et avec beaucoup d'humour, un humour grinçant, il évoque le fait que les écologistes de Zurich protestent contre ce centre, non pas parce que ce centre, il serait contre la démarche, au contraire, il l'approuve complètement, mais parce que, à force de déverser des cendres dans le Zurich Zee, on a fait disparaître quelques races de poissons. Et ces pages sont d'une force littéraire et humaine incroyable, et je les avais photocopiées pour quelques sénateurs lors d'un des nombreux débats qu'il y a eu sur l'euthanasie, et certains d'entre eux ont eu leur conviction transformée par la lecture de ces pages. Tout le monde n'imagine pas que Houellebecq est un véritable apôtre de la dignité des personnes humaines, c'est pas vrai dans tous les domaines, mais sur ce sujet, c'est le cas. Au-delà de cette question de l'accompagnement de la mort, je pense qu'il y a une question très importante que l'Église en France doit se poser, c'est l'accompagnement des personnes en deuil. Je dis les choses peut-être de manière injuste, mais il me semble que l'option faite depuis déjà de nombreuses années pour les prêtres de paroisse de déserter pour une part la célébration des obsèques a été une œuvre active de désévangélisation. Et il me semble que dans ce diagnostic que nous devons faire de l'effondrement d'une certaine pratique chrétienne en France, il y a de temps en temps des phénomènes de désévangélisation active que l'on mettrait au jour. Alors que par l'évangélisation de rue que je pratique et que je trouve très sympathique et très bonne, on se donne du mal pour aller fourguer des horaires de Noël ou de Pâques dans les cabas de personnes qui font leurs courses de Noël ou de chocolat pour Pâques, eh bien nous avons, avec les enterrements qui sont constamment célébrés dans les églises de France, des populations qui viennent, et pas simplement pour 5 minutes à la sauvette dans une rue, mais pour 1 heure, et qui, contrairement à certains mariages de petites bourgades, ne sont pas peuplés de gens qui font des blagues graveleuses en attendant d'aller abuser de l'alcool, mais par des gens qui sont en attente d'une parole et qui sont disponibles, et qui attendent une parole de consolation, qui attendent une parole sur le mystère de la vie et de la mort. Et c'est le moment que nous avons choisi pour ne pas les évangéliser. Et vous savez, ce scandale pour de nombreux fidèles, que quand il y a un prêtre ami ou un prêtre de la famille, dans beaucoup de diocèses aujourd'hui encore en France, il lui est interdit de célébrer l'Eucharistie, ou même de conduire la liturgie. Non pas que les laïcs ne puissent pas le faire très bien, mais dans certaines circonstances. Mais vous voyez, il y a là, il me semble, un point quand même extrêmement paradoxal de l'action de l'Église en France depuis 40 ans. Il y a une terre en attente d'évangile et d'espérance que nous avons choisi de déserter. Alors, je sais bien que c'est très compliqué pour un prêtre, quand il a un emploi du temps organisé, d'avoir un enterrement qui se rajoute. Il y a plein de choses très bien à imaginer. J'ai une équipe obsèque qui m'aide beaucoup dans ma paroisse, même si toutes les obsèques sont célébrées par des prêtres, mais je sais que nous sommes plus nombreux qu'ailleurs. Donc, je ne dis pas tout cela. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose de décisif, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à abandonner nos concitoyens à leur désespoir devant le mystère de la mort, alors que nous avons été appelés par le Christ mort et ressuscité pour annoncer la lumière de la résurrection, la lumière de la vie. Voilà pour ma première partie, une église pour les pauvres. Deuxième partie, la culture de la vie. C'est cette dimension culturelle de notre urgence apostolique. Quand je parle de culture, je fais référence, je vous le disais notamment, à Jean-Paul II et à son extraordinaire discours à l'UNESCO en 1980, qui mérite d'être relu et médité, où la culture est comprise, non pas seulement comme les beaux-arts et les belles-lettres, mais comme le rapport de l'homme à sa propre humanité. Les beaux-arts et les belles-lettres étant comme la manifestation, l'épiphanie de la culture au sens plus large du terme. Vous savez à quel point la culture était importante pour Jean-Paul II, notamment comme polonais. Et je vous renvoie à son livre très original, « Mémoire et identité », vers la fin de sa vie, la transcription de conversations qu'il a eues avec de journalistes polonais, où il parle notamment beaucoup de la miséricorde comme limite de Dieu dans l'histoire, mais aussi du rapport à la culture et à l'identité nationale. C'est très important pour nous, Français, de nous rappeler que la Pologne, ce n'est pas un État, c'est une culture. Vous voyez, nous, Français, nous sommes habitués à avoir un État depuis très 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 longtemps. Donc nous confondons souvent nation et État. La Pologne a eu une histoire où la majorité de son histoire, une vraie histoire polonaise, s'est faite sans État. La Pologne comme État a été rayée pendant des décennies et des décennies de la carte du monde. Mais elle a vécu comme culture. Et ça explique beaucoup de l'insistance de Jean-Paul II sur cette réalité de la culture. Je redirai un mot sur la dimension politique et l'investissement des chrétiens en politique en conclusion, mais je crois important de ne pas être fasciné par la dimension politique, qui est seconde par rapport à la dimension culturelle. Et le point vraiment nodal d'annonce de l'Évangile dans la société contemporaine, c'est la culture. Parce que c'est à partir du sol culturel que les attitudes concrètes, par exemple au service des pauvres, mais aussi plus largement dans le champ politique, peuvent trouver ce qui les construit. Aujourd'hui, beaucoup de positions politiques, même cohérentes avec ce que l'Église souhaiterait, sont très très fragiles dans la France, parce que elles sont détachées d'une véritable culture. Elles sont comme des plantations hors sol, extrêmement vulnérables. Alors, cette culture à laquelle Jean-Paul II nous a rendu extrêmement attentifs, c'est ce qu'il a qualifié souvent une culture de la vie, pour l'opposer à la culture de la mort. Et derrière cela, il y a toute sa théologie du corps, cette grande théologie qu'il avait formulée avant de devenir pape et qu'il a progressivement distillée au cours de plusieurs années de catéchèse. Beaucoup d'entre vous les ont travaillées. Aujourd'hui, notamment aux États-Unis, on aperçoit une véritable fécondité évangélisatrice au sens précis du terme de la théologie du corps. Et en France, on en parlait avec l'un d'entre vous qui a participé, beaucoup de choses se développent dans ce domaine-là. Et je crois que par rapport à notre temps, où la personne est démembrée, où le corps est en miettes, pour reprendre l'expression, le titre d'un livre de Gérard Leclerc, eh bien, et un titre étonnamment tout à fait proche de César Gazinski, que j'évoquerai à nouveau dans un instant, il y a une véritable évangélisation qui peut se faire par la manifestation de la beauté de la condition humaine, homme et femme, corps et cœur. Dans ma paroisse, dont j'ai bien conscience qu'elle n'est pas un exemple généralisable, je suis frappé de voir à quel point la préparation au mariage exigeante est un des lieux les plus évangélisateurs. Parmi les couples profondément fervents et engagés, qui ont vraiment fait du Christ le choix essentiel, pour reprendre les catégories de Charles Taylor évoquées ce matin par le père Granados, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui n'étaient pas pratiquants avant leur mariage, dont parfois les parents n'étaient pas pratiquants, dont parfois les parents n'étaient même pas mariés, et qui, étant venu demander à se préparer au mariage, ayant reçu une préparation au mariage exigeante, notamment pour manifester le mystère de l'homme et de la femme, la doctrine d'Humanae Vitae, la beauté des fiançailles, même quand elles sont rattrapées en cours de après une vie quasi conjugale antécédente, eh bien, quelque chose d'évangélisateur se produit. Alors bien sûr, parfois l'exigence est peut-être exprimée de manière trop maladroite ou ne pas acceptée, et comme à la fin de Jean VI, certains disent « ce langage est trop dur, qui peut l'écouter ?» Mais il y a vraiment quelque chose de l'Évangile qui se manifeste. Tout récemment, j'étais très étonné, un couple de fiancés, je vais baptiser le garçon à Pâques, dans quelques semaines, garçon étonnant, qui a fait l'ESSEC, le barreau de Paris, l'ENA, plus un diplôme à l'école pratique des hautes études sur Céline, s'interrogeant sur la transmission des idées, et vivant un itinéraire de découverte du Christ absolument magnifique, dans lequel il s'est engagé profondément par la lecture, la méditation de la Bible et de beaucoup d'autres choses, avec une justesse spirituelle étonnante. Fiancé à une bourgeoise catholique assez tiède, qui peine à l'accompagner dans son chemin de découverte du Christ et de vraie préparation au mariage. Eh bien, alors même qu'il était assez inquiet, pensant que le coup de grâce sur la capacité spirituelle de sa fiancée allait être porté par la journée de préparation sur l'affectivité, la sexualité, la fécondité, eh bien c'est ce qui a tout débloqué. L'exigence, l'ambition, la beauté de la méditation, l'actualité de la méditation dans le sillage de Jean-Paul II sur la théologie du corps a ouvert un chemin à l'évangile. Tant il y a aujourd'hui de troubles dans ce domaine, et tant il y a de soif aussi dans ce domaine pour l'évangélisation par le mystère de l'homme éclairé dans le mystère du Verbe incarné. Et de ce point de vue-là, c'est le troisième point de cette deuxième partie, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'appuyer sereinement sur les remises en cause de notre époque. Je disais tant il y a de troubles. Vous avez peut-être eu en tête tout de suite le fameux livre de Judith Butler, Troubles dans le genre. Et je crois que cette question des études de genre, la revendication homosexuelle, la diffusion d'un célibat non choisi, les difficultés dans l'ordre de la fidélité conjugale sont des vraies questions qui sont autant d'appels et de grâces annoncées en creux, à condition qu'on n'ait pas peur de les aborder. Il y a parfois une mauvaise conscience catholique sur le sujet qui fait qu'on n'ose pas répondre avec délicatesse, avec intelligence, par une véritable et vigoureuse annonce de l'Évangile, une véritable et vigoureuse annonce de l'anthropologie inspirée de l'Évangile. Sur la question du genre, par exemple, c'est très frappant de voir à quel point des convergences sont possibles. Je ne sais pas si ça, je crois que j'avais évoqué déjà ce livre il y a 2 ans, l'essai de Sylvana Gazinski, la femme de Lionel Jospin, ancienne maîtresse de Derrida, avec qui elle a eu un enfant. C'est quand même assez étonnant, cette femme qui apporte des éléments extrêmement solides, alors qu'elle fut la compagne du maître de la déconstruction, qui lui-même d'ailleurs a vécu ensuite un itinéraire spirituel. Ce n'est pas le sujet d'en parler maintenant. Elle explique comment, son essai s'appelle « La femme entre sexe et genre », à quel point l'archaïsme, l'obscurantisme se trouve du côté des tenants les plus durs des études de genre, et que certaines féministes radicales sont en réalité en train de subvertir le féminisme véritable en dissolvant la consistance même de l'identité féminine. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être capable, également sur la question de l'homosexualité, qui est une revendication très présente, qui, pour toutes sortes de raisons de déconstruction de la famille, eh bien, apparaît plus souvent que sans doute qu'elle n'apparaissait autrefois, la parole étant aussi peut-être libérée dans les personnes que nous avons à connaître, à accompagner, parfois même chez des personnes déjà engagées dans la vie consacrée. Il me semble qu'il faut être capable d'aborder toutes les personnes avec sérénité, mais en même temps, en manifestant sans réserve la beauté de la condition sexuée de la personne humaine et l'absolue nécessité, la salutaire nécessité pour entrer dans le bonheur que Dieu donne à chacun, fût-ce à travers des difficultés et des recherches complexes, et d'annoncer l'évangile, j'allais dire, pour reprendre le thème de l'évangile de la vie, l'évangile de la personne sexuée et de la personne faite pour la relation singulière avec l'autre sexe. Même sur la fidélité conjugale, dans le contexte du récent synode, j'ai été frappé de voir sous la plume de théologiens ou prétendus tels, je le dis sans polémique parce que personnellement je suis assez radicalement partisan de l'habitude orthodoxe de n'appeler théologien que Saint Jean, Saint Siméon, le nouveau théologien, Saint Jean de Massène, je crois. Et puis tous les autres sont des professeurs de théologie, Dieu seul sait qui est théologien. Mais en tout cas, sous la plume de professeurs de théologie patentés, l'idée que nous serions à une période où, sociologiquement, la fidélité définitive n'est plus possible. L'allongement de la durée de la vie étant convoqué de manière un peu facile, me semble-t-il, sur ce point. Et lire cela fait résonner la formule biblique « la fidélité est morte, on n'en parle plus ». Formule glaciale qui, dans l'Écriture, n'est qu'une annonce du salut qui est donné dans le Christ et dont nous avons à être les témoins. Voilà pour ma deuxième partie, deuxième urgence apostolique, après une église pour les pauvres, la culture de la vie. La troisième urgence me semble être la célébration de la vérité. Et là, je place cela sous le patronage de Benoît XVI. Et évidemment, c'est non seulement l'esprit du point de vue anthropologique, mais la foi qui porte vers la charité par le moyen terme de l'espérance. Cette espérance que j'ai essayé de mettre en filigrane de ma deuxième partie. Je crois extrêmement important qu'aujourd'hui, les catholiques, et cela aussi en fait parfois une minorité créative, aient le goût de la vérité. Le goût de la vérité. Nous nous rappelons le combat contre le relativisme de Benoît XVI. Dans la joie de l'Évangile, d'ailleurs, le pape François, comme beaucoup des thématiques des pontificats précédents, contrairement à ce qu'on dit de temps en temps, la reprend à son compte, ce risque du relativisme. Et j'ai été souvent frappé, en évoquant cela dans différents contextes, de voir parfois des responsables de l'enseignement catholique, parfois des prêtres, dire que la vérité, finalement, on ne peut plus en parler aujourd'hui. C'est devenu quelque chose qui est trop dogmatique pour être recevable par notre époque. Et évidemment, la vérité est la source de la véritable liberté, nous le savons, et dans le Christ, elle a un véritable visage. Cette vérité, même les chrétiens parfois choisissent de ne plus la cultiver, et elle est théorisée comme ne devant plus paraître dans, par exemple, le champ politique. Je vous recommande un petit essai extrêmement stimulant d'un psychanalyste non-croyant qui s'appelle Michel Schneider, qui a déjà un certain âge, qui a publié un petit « Miroir des princes », en reprenant le titre de Machiavel, sur les pathologies de notre système médiatico-politique, dont le narcissisme circulaire évacue toute recherche, dit-il, de la vérité. Et il me semble que ce que Michel Schneider dénonce dans le monde médiatico-politique pourrait de temps en temps rejoindre le monde ecclésial lui-même. Alors que nous avons comme chrétiens la grâce de porter, dans le vase d'argile de nos inadéquations avec elle, la merveilleuse coïncidence de l'amour et de la vérité. Chercher la vérité, annoncer la vérité, ne coupe pas de l'amour, au contraire. Comme saint Augustin et les médiévaux, notamment Guillaume de Saint-Thierry, aiment à le redire, la vérité de l'amour passe par l'amour de la vérité. La vérité de l'amour passe par l'amour de la vérité. J'ai donné comme titre à cette troisième partie sur les urgences apostoliques le titre de célébration de la vérité. Et quand on parle de célébration de la vérité avec Benoît XVI, on ne peut pas ne pas penser à la question liturgique, qui est aussi une question importante du point de vue d'une forme d'effondrement de l'Église sur elle-même à partir des années 60. Et je crois que là aussi, il faut être capable d'une relecture paisible, sereine, mais en même temps critique de notre histoire liturgique récente. Ce que le pape Benoît XVI, à sa manière, a pu commencer, mais qu'il ne faudrait pas trop vite enterrer en pensant que c'est une sorte de marotte de vieux bavarois habitués aux ors baroques et aux chœurs et aux orchestres symphoniques de Munich. Il y a là une question majeur du rapport à la vérité dans sa manifestation sous la forme de la beauté. La réalité eucharistique est tellement essentielle dans l'identité sacramentelle de l'Église. Rappelez-vous la très belle formule citée ce matin, l'Église ce n'est pas une institution avec des sacrements, mais un sacrement avec des institutions, que cette question liturgique, elle est centrale. Il me semble que parmi les raisons d'une persistante crise des vocations, où les vocations sacerdotales ne sont même pas au niveau du petit renouveau spirituel que l'on constate en France, il y a une vraie question qui est liée à la densité perçue, vécue, comprise de l'acte sacramentel de célébration, notamment de la messe. Dans un livre très intéressant qui s'inscrit tout à fait dans notre problématique, de George Weigel, vous savez, le grand biographe de Jean-Paul II, il a publié un essai qui s'appelle « Evangelical Catholicism, Deep Reform in the 21st Century Church, Catholic Church ». Je me flatte d'avoir encouragé les éditions Artege à le publier en français. Un prêtre d'Aix-en-Provence l'a traduit, donc « Le catholicisme évangélique ». Et c'est un livre très stimulant, qui est tout à fait dans l'esprit de la réflexion des minorités créatives. Et notamment, il y a tout un chapitre sur la liturgie que je trouve très ajusté, qui n'est pas du tout dans la nostalgie vieillotte des dentelles et des détails secondaires, mais qui pose vraiment cette question essentielle. Parmi les, et je crois qu'il ne faut pas trop vite imaginer qu'on est au bon niveau dans ce domaine-là. Même des lieux où on ne fait pas n'importe quoi ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que le Seigneur veut que nous vivions et manifestions dans l'expérience sacramentelle. De ce point de vue-là, la réflexion d'un Cavenot, même si elle est discutable, dans Église et mondialisation ou torture et Eucharistie, est très stimulante, tant qu'il est vrai que l'apparition, au sens de Balthazar, de l'Église comme corps du Christ vivant, dans le monde d'aujourd'hui, se fait notamment dans la réalité sacramentelle. Encore une étape, si vous voulez bien, toujours dans cette troisième partie, et qui, évidemment, et je ne le dis pas du tout par flagornerie à l'égard de Notre-Dame de Vie, est essentielle, c'est la question de la vie spirituelle. Une des urgences pour la mission aujourd'hui en France, c'est évidemment l'éducation à la prière. Et clairement, ce que Notre-Dame de Vie incarne, les écoles d'horizon qui se sont répandues dans le rayonnement de votre institut, et au-delà, parce que c'est un rayonnement qui a porté du fruit dans l'Église, sont très importants. On peut penser aussi à une manière de simplifier, de rendre joyeuse la prière, la louange, la prière partagée dans les mouvements charismatiques. On en parlait à table tout à l'heure aussi avec mes commensaux. Tout cela est décisif, mais aujourd'hui, il y a, me semble-t-il, une vraie priorité d'éveil à la prière. La question reprise par l'Écriture, « Qui nous fera voir le bonheur ?» pourrait aussi se décliner sur le thème « Qui nous apprendra à prier ?» Le pape François, à la fin de l'encyclique Gaudete aussi, qui est peut-être le passage le plus franciscain au double sens de la référence à saint François d'Assise, et à l'esprit et à la plume même du pape François, une sorte de spiritualité écologique, fait remarquer que l'extension des déserts dans les zones qui ont connu une déforestation objective est comme la manifestation visible de l'extension des déserts intérieurs chez nos contemporains. Et je trouve que ce qui peut sembler un raccourci est en fait extrêmement suggestif. Et aujourd'hui, même si on a moins peur de la vie spirituelle qu'on en a eue, on a moins peur de fuir nos missions dans la vie spirituelle, il me semble que nous avons vraiment à comprendre qu'il y a là une véritable priorité pour la mission. Voilà les trois urgences que je voulais identifier, le service des pauvres, la culture de la vie et la contemplation de la vérité dans les trois formes que j'ai essayé de dire. Je conclue en posant une question qui est assez radicale, fort bien, admettons, mais pourquoi est-ce que tout cela semble finalement ne pas marcher ? Est-ce que ce ne sont pas des beaux rêves, mais sans prise sur la réalité. Est-ce que c'est pas une manière de s'entretenir dans l'illusion que une nouvelle forme de chrétienté, ce serait tout un débat d'analyser ce mot, ce serait d'ailleurs très intéressant, est possible. Parce que finalement, il y a eu Le rêve de Compostelle, c'était le nom d'un livre critique sur les années Jean-Paul II, qui débusquait toutes les manipulations qui pouvaient conduire aux grandes réussites des JMJ des voyages du pape. Et puis voilà, il y a eu une espèce de grand engouement des années Jean-Paul II. Et puis finalement, on semble toujours au même point, c'est-à-dire d'une église qui s'amenuise inexorablement et qui semble camper aux portes du vrai mouvement de l'histoire contemporaine. Et même dans les années que nous vivons dans la vie de l'Église, de manière pour moi très inattendue, sans doute étais-je pas assez attentif ou trop naïf, nous avons l'impression de vivre de temps en temps un revival, pour reprendre l'expression typiquement espagnole traduite par Laurence Matin, de ce qu'il y avait de moins réjouissant dans les années 70, avec des théologiens ratzingeriens qui tout d'un coup font amende honorable de leur goût de la vérité et adoptent les thèses déconstructivistes, notamment en matière de mariage, de sexualité, qu'on imaginait un peu révolues. Je suis frappé de voir que certains ouvrages des années 70 reprennent une actualité extraordinaire. En particulier, ce cri de foi et de rage de Maurice Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu, œuvre dont le titre naît dans le contexte du Festival d'Avignon, tout près d'ici, où Clavel a des accents qui aujourd'hui restent, ont repris même un regain d'actualité. On peut avoir l'impression, par exemple, que du point de vue de l'influence politique des chrétiens, on va d'échec en échec. Alors, quelle est la vérité et la fécondité de ce que j'ai essayé de dire pendant tout cet exposé? Je dirais d'abord que nous vivons, objectivement, et les catégories bibliques que j'évoquais dès le début de cet exposé aident à le comprendre, un vrai moment de mise à l'épreuve spirituelle dans lequel, eh bien, nous succombons au péché du monde, au sens précis de ce terme. Et de ce point de vue-là, tout le thème de la mondanité chez le pape François peut être extrêmement intéressant. Nous succombons, en particulier, à ce syndrome narcissique de la peur de déplaire. Et de ce point de vue-là, le thème de la minorité créative est très important, parce qu'il y a une sorte de nostalgie majoritaire qui bride notre rapport à la vérité et notre capacité à l'annoncer. Parmi nos difficultés spécifiques en France, il y a une sur-intériorisation, si je puis me permettre ce mauvais néologisme, de l'esprit de 1905, qui d'ailleurs, comme un certain esprit de Vatican II, ne coïncide pas avec sa lettre. La loi de 1905 a institué en France une séparation institutionnelle entre les églises et l'État, mais pas de séparation globale entre les églises et la société, en dépit des velléités de ses artisans. Mais le cadre institutionnel français ne justifie pas cela et n'instaure pas cela. Or, nous sommes souvent bien timides. J'évoquais beaucoup d'échecs dans le champ politique, sur l'avortement, sur le mariage. On l'a bien vu, malgré une grande mobilisation qui disait quelque chose des rémanences de l'identité chrétienne de notre pays. Mais de temps en temps, il y a eu, ce serait un autre sujet qui évoquait cela, de manière discrète, de véritables réussites de l'influence chrétienne sur des sujets politiques, par des moyens tout à fait légitimes, le moyen de la conviction, de la réflexion, de l'engagement, mais qui a demandé un engagement de terrain fort. Mais j'ai été frappé de voir que certains clercs, voire certains hiérarques, ont été comme inquiets d'avoir pu porter du fruit par leurs paroles. Je pense à tout le débat sur la bioéthique, où en 2011, finalement, l'engagement des évêques a très soigneux, très réfléchi, notamment grâce à votre confrère, Mgr Dornelas, a porté du fruit. Mais finalement, certains ont eu peur d'avoir frayé avec le diable en défendant de manière féconde la dignité de la personne humaine. Tant il y a cette espèce de spectre de césaropapisme, pourtant complètement de côté depuis longtemps. Parfois, on a l'impression que dans le domaine de l'engagement politique des chrétiens en France, s'il y avait eu une telle prudence dans les années 70 et 80 à l'est de l'Europe, eh bien, le mur de fer, le rideau de fer serait devenu un mur de fer et d'airain, et nous serions encore dans cette Europe qu'on annonçait de notre côté, à jamais coupée en deux. Et donc il y a aujourd'hui, me semble-t-il, un véritable renouveau du courage spirituel dans la recherche et le service de la vérité qui ultimement réside dans le visage du Christ à mettre en œuvre. Et pour cela, il me semble important de peut-être de ne pas nous enfermer trop vite dans une opposition entre le centre et les périphéries. Je crois très important, et le pape a bien sûr raison, de nous rappeler qu'on ne doit pas s'enfermer dans un centre et que le centre est en vue des périphéries. Mais il me semble que l'urgence des urgences pour la mission aujourd'hui, c'est de manière très paisible et très joyeuse, très courageuse en même temps, eh bien de ne jamais cesser de cultiver la vérité qui rend libre. Merci.